Vous écoutez
RMC. Face à face.
Il est 8h37 sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Thomas Soulier.
Vous êtes sénateur de Vendée, patron des sénateurs Les Républicains. Hier, vous avez donc présenté avec Laurent Wauquiez un pacte législatif avec sous la table 13 lois. On va y revenir en détail sur l'immigration, les normes, le nucléaire. Mais avant cela, vous dites, Bruno Retailleau, oui, oui à des projets communs, non à des coalitions. Vous nous garantissez ce matin qu'il n'y aura aucune coalition avec le camp présidentiel aujourd'hui et d'ici à 2027.
Non, nous ne souhaitons pas de coalition, nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement, ni dans une coalition. En revanche, nous ne voulons pas bloquer le pays. Je pense que aujourd'hui la France va mal. Je pense qu'on est au bord d'une crise financière. On va le voir dans quelques semaines avec le budget, si celui-ci n'est pas voté avec suffisamment d'économies. Il en faut pratiquement 20-25 milliards, ça n'est pas rien. Sur le front de la sécurité, les Français voient bien que ça se dégrade. 1000 coups et blessures par jour, une immigration qui est hors de contrôle. Donc nous, on va être utile au pays. Et pour être utile au pays, on dit au président de la République et au futur Premier ministre, écoutez, nous, on met sur la table des propositions très concrètes, des propositions qui sont en rupture avec ce qu'on n'a pas encore essayé. Je pense que on pourra les détailler.
Ouais, on va en parler.
Que ce soit sur en matière de pouvoir d'achat, que ce soit en matière d'immigration, de justice, notamment pour les mineurs, je pense qu'on a mis sur la table des propositions qui sont de bon sens, mais qu'on n'a jamais eu le courage en France de pouvoir, si j'ose dire, tester.
Alors en coulisses, le camp macroniste regarde tout cela avec beaucoup, beaucoup d'attention. Imaginons, Bruno Retailleau, qu'Emmanuel Macron vous dise « Ok, on top. Ces 13 propositions de loi, je les reprends. » Même ça, même avec cela, vous ne gouvernerez pas avec Emmanuel Macron. C'est sûr.
Non, mais gouverner, qu'est-ce que ça signifie, gouverner ? Ce qui est important pour nous, j'ai utilisé le mot d'être utile au pays.
Oui.
Parce que pour nous, notre boussole, c'est pas Monsieur Macron. Notre boussole, c'est tout simplement l'intérêt supérieur des Français et des Français.
Mais s'il reprend tout ?
Mais on votera, bien sûr.
D'accord.
On votera et on concourra, justement, au redressement de la France. Parce que si on a mis sur la place, sur la table, ces 13 textes de loi, c'est pour redresser la France. C'est pour que les Français aient plus de pouvoir d'achat. C'est pour qu'il y ait plus de tranquillité dans la rue. C'est pour lutter contre l'islamisme, etc. Donc ça va dans le bon sens.
Vous dites, nous sommes une droite responsable. Mais est-ce que ce n'est pas irresponsable de dire, juste par principe, je ne veux pas gouverner avec cette personne-là, Emmanuel Macron?
C'est pas une question de personne. Je vais vous dire. Quand on dit coalition, on sous-entend une coalition qui irait de la gauche jusqu'à la droite en passant par le centre. Mmh. Ça serait le « en même temps ». Le « en même temps », c'est l'échec.
Et, qu'est-ce qu'a fait... Et seulement vous et la Macronie.
Mais ça fait 220 députés, Thomas Soulier.
Vous serez renversé.
Très loin, mais bien sûr, très très loin des 289 que nécessite la majorité absolue. Donc je pense que pour nous, la façon la plus intelligente d'être utile au pays, c'est au contraire de mettre des idées très très concrètes. Des idées, encore une fois, qu'on n'a pas testées. Des idées qui n'ont jamais été appliquées. Des idées qui ont été appliquées, par contre, dans d'autres pays. Faut pas non plus essayer de réinventer l'eau chaude.
On va le détailler. Il y a donc une frontière infranchissable entre vous et la Macronie. Et pourtant, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, votre homologue à l'Assemblée, et Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, se sont mis d'accord pour une répartition des postes à l'Assemblée, des postes prestigieux. Et vous dites oui au fait de se répartir les postes et non au fait de gouverner. Vous comprenez qu'il y a une forme d'incohérence politique là-dedans ?
Non, moi j'y vois vraiment une cohérence pour deux raisons. La première, c'est que notre objectif à l'Assemblée a été de faire barrage à la gauche et notamment à LFI. Mmh. Et nous y sommes parvenus. Sinon, aujourd'hui, au moment où on se parle, on aurait un président communiste à la tête de l'Assemblée nationale. Avec un quart des voix, un tiers des députés, la gauche associée avec LFI ne peut pas prétendre gouverner la France qui n'a jamais été autant à droite. Première raison. Deuxième raison, si nous avons voulu progresser en termes d'influence et donc de poste à l'Assemblée nationale, mais c'est justement pour donner de la force au pacte législatif. Mmh. Le pacte législatif, c'est 13 textes de loi. Il est évident que au Sénat, et c'est ça qui est important, le Sénat va être un pôle de stabilité. On a une majorité au Sénat.
Oui. Donc, la droite est majoritaire au Sénat. Oui.
Exactement. Donc, on pourra faire passer ces textes. D'ailleurs, plusieurs viennent du Sénat, ont déjà été votés au Sénat. Et avec des postes d'autorité à l'Assemblée nationale, ça nous donne aussi un autre argument pour faire passer ces textes.
Mais les Insoumis et le RN, ils sont plus nombreux que vous. Et beaucoup plus nombreux que vous. Et pourtant, vous dites, on assume, on a beaucoup plus de postes qu'eux. C'est antidémocratique, non ?
Non, ils sont dans une stratégie de chaos. Et moi, je veux redire, ce qui ne s'est pas vu, mais ce qui s'est fait. Marine Le Pen a crié au loup. Elle s'est victimisée. C'est un double jeu. Elle a orchestré cette victimisation. S'il n'y avait eu qu'elle, on aurait eu l'extrême gauche au pouvoir à l'Assemblée nationale. Je veux rappeler que la première vice-présidente, qui est une vice-présidente d'extrême gauche, LFI, c'est aussi grâce au RN qu'elle a été élue. Et s'il n'y a pas de poste de secrétaire au bureau du RN, c'est que les candidats ont été retirés. Donc ça va bien. Elle se victimise, et c'était simplement dans la stratégie du chaos, parce que elle pense que c'est meilleur pour elle de se victimiser pour 2027.
Alors le jeu de l'été chez vous, les Républicains, c'est ni oui, ni non, ni coalition. Et pourtant, il y a un sondage Odoxa ce matin dans le Figaro qui dit 61% des Français appelle les partis politiques à une coalition. Est-ce que vous êtes à contre-courant de l'opinion publique ?
Non, encore une fois, ce qu'on a mis sur la table, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne veut pas bloquer le pays.
Mais eux disent, la droite et gauche travaillent ensemble, voilà ce que disent les Français.
Mais c'est bien ce qui se passera.
Ouais. Puisque non, une coalition avec la gauche. Donc
Non, mais pas au gouvernement. Pas au gouvernement, parce qu'on ne veut pas donner un chèque en blanc.
Mais la gauche ne votera pas vos propositions de loi,
Monsieur Retailleau. Quand vous passez... Oui, elle ne votera peut-être pas, notamment sur la justice, notamment sur l'immigration. Mais je verrai bien, par exemple, sur l'énergie, sur le nucléaire, ce que pourrait faire une partie de la gauche.
Donc vous tendez la main à la gauche pour voter aussi quelques propositions de loi qui viennent des Républicains.
Je tends la main à tous les parlementaires qui ont à cœur l'intérêt supérieur du pays. C'est
alors,
tout.
Avant d'en venir au fond, dernière question politique. Vous fixez deux lignes rouges dans ce pacte législatif. Vous dites un gouvernement qui augmenterait les impôts ou qui baisserait les pensions de retraite, eh bien, on le fait tomber dans la minute. Le camp présidentiel ne fait ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce que ça signifie que si Gabriel Attal est encore Premier ministre en septembre avec ce gouvernement démissionnaire, vous ne le ferez pas tomber ?
Nous, ce que nous voulons, c'est que, parce que la première crise, le premier texte législatif d'ailleurs, qu'on va avoir devant nous, c'est dans quelques semaines, c'est le budget. Et cette semaine, dans quelques heures, Bruxelles, l'Union européenne, va enclencher une procédure pour déficit excessif. On est au bord de la banqueroute. On est au bord d'une crise financière.
Et donc, ce qu'on dit au gouvernement... Si nous font ni l'un ni l'autre, ils peuvent rester au gouvernement.
Mais ce que l'on veut pour le budget, c'est 25 milliards d'euros d'économie. Pourquoi on ne veut pas d'impôts ? Parce qu'on est déjà le pays d'Europe, le pays du monde, où on a le plus de prélèvements.
Emmanuel Macron n'a pas augmenté les impôts.
Il n'a pas augmenté les impôts. Le prélèvement n'a pas diminué. Les prélèvements de la richesse, on est toujours à 44%. Ah oui, non, mais le problème, c'est que Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards d'endettement de
plus.
Je
reprends ma question.
C'est la dépense.
S'ils n'augmentent pas les impôts, s'ils ne baissent pas les retraites, est-ce qu'en septembre, vous dites, OK, ils peuvent rester à ce gouvernement-là, on ne les fera pas tomber?
Non, mais nous, on est dans un esprit de responsabilité. Donc, on ne cherche pas à faire tomber le gouvernement. On veut ce qui est bon pour la France. Et ce que l'on dit, ce qui est bon pour la France, c'est pas d'augmenter les impôts, parce qu'à ce moment-là, on tue en réalité l'activité française et on provoque du chômage. Deuxième chose, on veut baisser la dépense publique, parce que dans ce pays, voilà, dès qu'il y a un problème, on pense qu'il est soluble avec plus de subventions. Si c'est pas le cas.
Si en septembre, il y a toujours le même gouvernement, ça vous choquerait?
Non, oui. Le gouvernement démissionnaire, bien sûr. Oui. Ce serait même anticonstitutionnel.
Donc il faut changer rapidement de gouvernement là.
Je pense qu'un gouvernement, ce gouvernement-là, peut tenir le temps de la trêve olympique.
D'accord.
Mais certainement pas au-delà. Il faudra.
En septembre, donc, vous dites, en septembre, il faudra un nouveau gouvernement.
Septembre, c'est trop long. À mon avis, c'est en août.
En août, donc juste après les Jeux Olympiques, avant les Jeux Paralympiques,
c'est ce
vous
que
dites.
Je pense. En tout cas, ça passe par la nomination d'un Premier ministre.
Alors, on en vient au fond de vos propositions. J'ai bien lu votre dossier de presse. Sans surprise, le texte numéro un, c'est sur l'immigration. Vous proposez à nouveau le délit de séjour irrégulier ou encore l'accès aux prestations sociales conditionnées à une présence, une durée de présence minimale en France. Ça a déjà été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes si têtu que ça, Bruno Retailleau ?
Non, d'abord, le premier texte, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'on veut qu'en France, ça ne soit pas par des chèques en bois de l'État qu'on puisse augmenter le pouvoir d'achat. C'est par le travail, et certainement pas par l'assistanat. Simplement, sur l'immigration, vous faites bien de me poser cette question-là, le Conseil constitutionnel n'a pas dit que c'était anticonstitutionnel, les allocations familiales. Nous, on veut un délai de carence. On veut qu'un immigré qui arrive en France, au premier jour où il met les pieds sur le sol national, il n'ait pas le droit à un certain nombre d'allocations.
Et ça, vous l'aviez imposé lors de la loi immigration.
Voilà. Ouais. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit que c'était anticonstitutionnel. Il a dit simplement que les délais de 30 mois ou de 5 ans, c'était trop long. Regardez, le RSA, c'est 5 ans de délai de carence. Donc ça fonctionne bien.
Oui.
L'ASS, notamment pour les chômeurs de longue durée, ça fonctionne. Il y a aussi.
Mais vous n'avez aucune garantie. Vous n'avez aucune garantie que ce sera conforme à la Constitution sur le fond, je dis bien.
Si. Attendez, le Conseil constitutionnel, ce qui s'est passé de façon incroyable, avec les clins d'œil appuyés du président de la République demandant au Conseil constitutionnel de censurer la loi immigration, qui a été une loi de fermeté comme jamais en France on avait voté, et c'est nous, la droite, qui l'a écrit. C'est que le Conseil constitutionnel a dit il y a des caviers législatifs, c'est-à-dire qu'au Sénat vous, et à l'Assemblée, vous avez voté des choses qui n'ont qu'un intérêt, en plutôt un lien très 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 indirect, même pas indirect d'ailleurs, avec le texte de loi. Ouais. Bien, si nous, on met sur la table, juridique, un autre texte de loi, eh bien, tous les amendements qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel seront, en fait, avec un lien direct et seront donc, si j'ose dire, juridiquement parfaits. Il n'y aura pas de problème.
Un mot sur les retraites. Vous proposez qu'elles soient valorisées en fonction de l'inflation. C'est ce que Gabriel Attal aussi a proposé il y a un mois maintenant. En revanche, dans votre pacte, il n'y a rien sur une réforme d'ampleur concernant les retraites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réforme d'Elisabeth Borne et Olivier Dussopt était finalement la bonne ?
Attendez, cette réforme-là, je l'ai soutenue. Pour la bonne et simple raison.
Pas vos copains à l'Assemblée ?
La plupart. Si, si, les deux tiers.
Le gouvernement a failli tomber.
Non, franchement. Non, plus des deux tiers des LR à l'Assemblée nationale l'avaient soutenue. Cette réforme, nous l'avons soutenue parce que c'est un amendement, elle vient d'un texte que nous faisions passer au projet de budget de la Sécurité sociale tous les ans, avec le recul d'âge, 64 ans, et une accélération de la durée des cotisations. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait passer ? Parce qu'on voulait garantir à nos retraités, à nos anciens, garantir leur pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on veut l'indexation. Voilà. Par le travail. Parce que en 2030...
Ça coûte combien, ça ? L'indexation des retraites sur l'inflation.
Tout dépend de l'inflation. Tout dépend de l'inflation.
Quand vous avez chiffré,
Oui, bien sûr. Quand vous avez une inflation forte, oui, ça peut coûter de plus de 10 milliards. Quand vous avez une inflation faible, ça coûte quelques milliards.
Vous cramez la caisse.
C'est la contrepartie du travail. Vous pouvez pas dire aux gens, on va travailler plus et vous allez gagner moins. Ça ne marche pas. Ouais. Nous, ce que l'on veut, c'est pour ça que on a une approche très différente de la gauche et très différente d'Emmanuel Macron, du pouvoir d'achat. Nous, on pense que, comme dans les autres pays qui s'en tirent bien, pourquoi les Allemands, les Suisses et les autres ont un meilleur pouvoir d'achat que le nôtre ? C'est que nous, on a tué le travail avec les 35 heures, la retraite à 60 ans. Ça, c'était deux grandes erreurs de la gauche. Et vous voudriez qu'on rentre dans une coalition avec la gauche qui voudrait qu'on travaille toujours moins, qu'on dépense toujours plus. Il faut, en politique, tenir à ses convictions et à ce qui est bon pour le pays. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on n'est pas d'accord.
En parlant de convictions, on va en venir à votre parti, les Républicains. On en parle beaucoup depuis un mois et demi maintenant. Éric Ciotti est toujours le président de votre parti. Et pourtant, il y a un mois et demi, il a fait ce qu'on appelle une union, une alliance. Donc, cette fois-ci, avec le camp de Marine Le Pen. Hier, il a réagi à votre pacte législatif et il a proposé un vote à vos adhérents en disant soit vous choisissez, et je le cite, la dissolution des Républicains dans le camp macroniste. Selon lui, c'est ce que vous proposez. Ou, dit-il, le rassemblement de toutes les droites. Imaginons que les adhérents LR votent pour l'option défendue par Éric Ciotti. Vous faites quoi ?
Croyez-moi que s'il votait aujourd'hui, il voterait certainement pas pour ce qu'a proposé Monsieur Ciotti.
Vous êtes persuadé ? Vous êtes persuadé ?
Bien sûr, parce que s'ils sont restés avec nous, croyez-moi, c'est parce qu'ils tiennent à une ligne d'indépendance de la droite. Éric Ciotti a fait un pari personnel pour Nice, uniquement personnel. Un pari qui est une trahison, puisque il a fait ce pari-là au moment même où ses troupes montaient au feu. Vous vous rendez compte ? Notre président, le chef qui trahit ses troupes. Bien. Eh bien, il a perdu son pari. Mmh. Il a perdu son pari. Donc, je ne doute pas que...
Il a réussi à faire un groupe à l'Assemblée.
Non, mais un groupe d'une quinzaine. Enfin, dire, c'est... Bon, peu importe. Ouais. Nous, on va reconstruire quelque chose. Ouais. On veut reconstruire une droite républicaine, une droite française, qui demain sera capable de battre la gauche avec quelques valeurs très simples, je vous les ai énumérées.
Ouais. Ouais.
Le travail doit payer beaucoup plus que la cistana. On doit avoir un État avec plus de liberté et moins de bureaucratie. On doit avoir une école qui transmette un héritage, qui transmette des savoir-faire. On doit avoir une fermeté des prisons où on puisse incarcérer des délinquants.
Je reviens à ma question. La marque LR, vous disiez on veut reconstruire quelque chose. La marque LR, elle est morte selon vous ?
Bien sûr. Je l'ai dit il y a deux ans, quand je m'étais présenté d'ailleurs contre Éric Ciotti pour présider le parti Les Républicains, j'avais fait ce constat que il fallait tout changer, du sol au plafond.
Et ça va être le cas ou pas ?
Et c'est ce qu'on va faire avec Laurent Wauquiez, avec beaucoup d'autres de nos militants. Je pense qu'il y a en France un espace politique, parce que Marine Le Pen se réclame de la fermeté, de l'autorité, mais elle est socialiste sur le plan économique. quand moi j'avais fait voter les 15 heures de contrepartie d'activité pour le RSA, elle s'y est opposée. Nous sommes les seuls qui voulons à la fois la liberté sur le plan économique et l'autorité et la fermeté.
Un espace entre...
On veut la prospérité, mais l'ordre en même
temps. Un espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au milieu, les Républicains, Éric Sautier, il sera toujours votre président à la rentrée ?
Peu importe, je vais vous dire,
si
on réglera ce problème-là. On va régler ce problème-là.
Bah, vous avez du mal, hein.
Oui, mais bien sûr.
Il s'accroche.
Parce qu'il a tout fait. Ah ben, bien sûr qu'il s'accroche. Bien sûr. Mais peu importe. Pour moi, c'est du détail. C'est de l'ordre du détail. Ce que je sais, moi,
vous, le président des Républicains, notamment, enfin, le nouveau Républicain, vous dit, ça?
Non, mais ce qui me dit...
Il y a un poste à prendre.
Hein. Non, je m'en fiche des postes. Vous me connaissez mal. Mais moi, ce qui me dit... c'est les idées qu'on peut porter. C'est des idées nouvelles, des idées en rupture. Parce que ce soit Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, on n'a pas tout essayé. Vous savez, un jour, c'est François Mitterrand ou Lionel Jospin qui avait dit contre le chômage, on a tout essayé. Ben, on n'a pas tout essayé. On a essayé des formules du social-étatisme où il y a toujours plus de bureaucratie d'État, où il y a toujours plus d'impôts, toujours plus de charges, moins de liberté. Les Français veulent respirer. Il y a du bon sens et malheureusement, ils veulent aussi de l'ordre. De l'ordre dans la rue, dans les comptes, dans les esprits.
Bruno Retailleau, vous parlez de la gauche. Justement, un mot sur la gauche et le Nouveau Front Populaire. J'ai écouté votre conférence de presse hier avec attention. Vous tapez très très fort sur les Insoumis. Peu, finalement, sur le parti de Marine Le Pen. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est plus dangereux que Marine Le Pen, selon vous?
En tout cas, il représente un danger.
Plus que Marine Le Pen. Plus que Marine Le Pen.
Écoutez, je ne veux pas faire de comparaison, mais en tout cas, oui, ce que je constate,
sensation,
ce que je vous constate, écoute, c'est que le parti qui prône, dont beaucoup de membres, pas tous sans doute, mais beaucoup de membres prônent l'antisionisme, qui n'est que le masque à peine convenable de l'antisémitisme, c'est le parti de M. Mélenchon. Le parti qui veut mettre à bas les institutions de la Ve République, avec un mépris total pour l'ordre républicain, la haine anti-flic. C'est le parti de M. Mélenchon.
Le parti de Marine Le Pen n'est pas un parti antisémite.
En tout cas, elle expurge. Regardez ce qu'a dit M. Porte. Est-ce qu'il était exclu de
LFI? Thomas Porte, député LFI, qui a dit les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus.
A-t-il été exclu?
Non, il a même été soutenu par les Insoumis.
Exactement. M. Caron, Émeric Caron, qui indiquait qu'il ne faisait pas partie de la même espèce que ceux qui soutenaient Israël. A-t-il été exclu? Monsieur Émeric Caron, qui indiquait, vous savez, cette petite fille de 12 ans, juive, violée, que médiatiquement, vous en aviez trop fait. A-t-il été exclu? Non. Voilà. Ce parti qui, en novembre 2019, défilait aux côtés d'organisations islamistes, c'est LFI. Donc, c'est un danger pour la République, et je pense qu'ils se sont retranchés, écoutez-moi bien, de l'arc républicain. Et c'est la raison pour laquelle la gauche ne peut pas prétendre gouverner la France. Pourquoi? Parce que retrancher LFI du champ républicain, ça veut dire qu'on doit retrancher LFI du champ gouvernemental et des forces qui pourraient être amenées, évidemment, à gouverner.
C'est ce que dit Gabriel Attal, ni RN, ni LFI. Mais est-ce que le RN est dans l'arc républicain, selon vous?
Je pense en tout cas que Madame Le Pen n'a plus rien à voir avec le père Jean-Marie.
Donc elle est dans l'arc républicain, ce qu'on appelle l'arc républicain.
Je pense qu'il y a un certain nombre de partis, je les combats, ils me combattent aussi. Ils veulent notre mort, ils veulent nous tuer. Marine Le Pen, l'opération M. Ciotti, de la part du Rassemblement National, c'était une opération qui nous visait directement. Elle veut notre mort. Vous comprendrez,
il nous reste
un avis favorable sur le Rassemblement National.
Le député Thomas Porte, avec ses propos que je rappelais, est-ce que vous souhaitez des suites judiciaires?
S'il y avait suite judiciaire, pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne veux pas d'en plus.
Vous le réclamez pas.
Tout judiciarisé.
D'accord.
Simplement, c'est inacceptable. Moi, j'ai vu les images. Ils devraient les regarder. Du 7 octobre. C'est terrible, c'est terrifiant ce qui s'est passé. Et que, justement, le front de gauche se soit associé au NPA de M. Poutou. M. Poutou, qui a célébré le 7 octobre dernier comme une forme de résistance, là encore, c'est absolument injustifiable.
Il est 8h55, merci beaucoup d'avoir été notre invité. 8h55 sur RMC et BFM TV.